sommes très heureux de vous retrouver sur les ondes de Radio Galère pour cette nouvelle émission hebdomadaire des carnets de Comaguerre. Je rappelle, pour ceux qui ne nous connaissent pas, que Comaguerre, ça veut dire comprendre et agir contre la guerre. Voilà. C'est tout un programme. Alors, ce n'est pas un programme pacifiste, parce qu'on sait par ailleurs, l'histoire l'a montré, qu'il y a des guerres justes. Je pense en particulier aux guerres de libération nationale, c'est-à-dire qu'il y a des moments où la décolonisation ne se fait pas par des voies pacifiques, et donc le peuple qui est colonisé est obligé, in fine, et il ne fait jamais ça de gaieté de cœur, on l'imagine, il sait qu'il y aura du sang et des larmes, comme disait l'autre, mais il y a des moments où la lutte de libération nationale devient une lutte armée pour en sortir. Alors ça marche assez souvent, ça marche pas toujours, il y a quelquefois des échecs, mais ça marche assez souvent, et ce qui est en cours, j'y reviendrai un peu plus tard, en ce moment en Palestine, c'est la phase armée de la lutte de libération nationale. C'est, la chose est tout à fait claire et très compréhensible. Voilà. Donc je suis content de retrouver la fine équipe de Galère, donc avec Swan, qui est à la technique aujourd'hui, avec le soutien efficace de Jules, je vous salue tous les deux. Voilà. Et donc Habib est à mes côtés et on n'aura pas aujourd'hui Roselyne. Alors, puisque j'étais à parler de Palestine, je vais y rester un petit moment tout de suite, puisque, en fait, j'ai sous les yeux un nouveau texte de la Cour internationale de justice. Vous savez que la Cour internationale de justice a d'abord formulé des jugements sur le caractère de la colonisation, et elle a reconnu, elle a acté que la Palestine a été colonisée, donc ça fait pas l'ombre d'un doute. Ensuite, elle a parlé de la préparation du génocide, ça c'était en décembre 2023. Oui, non, 24. Bon, la préparation du génocide, en demandant, je signale, en demandant à Israël d'arrêter ce mouvement vers le génocide. Les faits ont prouvé qu'Israël n'avait pas entendu, ne voulait pas entendre ce qu'il est la Cour internationale de justice et que le génocide continuait. Et maintenant, on est en une nouvelle phase où la Cour internationale de justice est à nouveau saisie pour faire respecter le droit humanitaire. Alors là, il ne s'agit plus de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de génocide, il s'agit simplement de donner le droit aux Palestiniens de Gaza de manger tous les jours, hein, et d'être soigné a fortiori. Bon. Et ça, là, à la Cour internationale de justice, s'est à nouveau penchée sur cette question-là. Et qu'est-ce qu'elle dit ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Elle s'en prend à la question, vous savez que l'ONU avait monté, après 1948, un organisme qui s'appelle l'UNRWA, hein, Nations Unies pour le soutien, l'aide aux réfugiés palestiniens, et surtout aux exilés palestiniens, et que cet organisme de l'ONU, avec des fonctionnaires payés par l'ONU, qui s'appelle l'UNRWA, enfin payé par l'ONU. En fait, l'argent ne vient pas directement de l'ONU, mais il vient d'un certain nombre de pays arabes qui mettent de l'argent dans la caisse. Ça, c'est une astuce de fabrication qui fait que l'ONU n'a pas énormément d'argent, donc quelquefois, l'ONU fait la mendicité. Il faut le savoir. Bon, toujours est-il qu'il y a, sous la casquette de l'UNRWA, sous les uniformes de l'UNRWA, il y a, en Cisjordanie et particulièrement à Gaza, des enseignants de l'UNRWA, des infirmiers de l'UNRWA, du personnel donc humanitaire qui est là pour aider les Palestiniens, qui n'est pas un participant au combat en aucune façon, il est sous l'uniforme des Nations Unies et il est là pour aider la population.
Alors, il a perdu beaucoup de personnel.
Et voilà, et les Israéliens n'ont pas hésité à tirer dans le tas, c'est-à-dire, non pas, voilà, tirer dans le tas, ça veut dire, bien qu'ils voient très clairement que cette personne a un uniforme avec le marqué UNRWA sur son dos, ils n'hésitent pas à tirer dedans. Ça fait partie de la pratique sioniste de la colonisation. Donc, ce que souligne déjà la Cour internationale de justice, c'est que l'UNRWA est protégée, devrait être protégée, elle est là pour des missions humanitaires, et que donc Israël, en tuant du personnel de l'UNRWA, ou en détruisant des installations, genre une installation scolaire, une école construite par l'UNRWA, les Israéliens font un travail qui est contraire au droit international en matière humanitaire. Donc vous voyez que ça s'accumule, interdit, la colonisation est reconnue, elle est interdite, le génocide est en voie de reconnaissance, il est interdit, et maintenant même le fait de donner à manger à quelqu'un est un crime, hein, un crime contre l'humanité, qui relève des lois humanitaires.
Exact.
Voilà, alors quand j'ajoute ça, si vous voulez tout ça, ça fait un tableau comblé, c'est-à-dire que Israël n'a rien et aucun des crimes possibles qu'il était possible de faire contre la population palestinienne n'a été évité par Israël. C'est-à-dire on voit un acharnement, une volonté jusqu'au boutiste de destruction, je peux faire tous les crimes qui sont listés dans tous les traités de la Terre et ici et là, je ne veux pas le savoir. C'est ça la politique israélienne. Si cette politique-là perdure, c'est qu'en fait, il y a le parrain au-dessus qui, malgré ses rodomontades et « je veux la paix », etc., le parrain continue à financer, continue à envoyer des armes. C'est pour ça que ça se continue. C'est très intéressant de se rendre compte de ça. Alors qu'est-ce qu'elle dit, cette Cour internationale de la justice, elle dit, elle déclare que l'État d'Israël, en tant que puissance occupante, est tenu de remplir toutes les obligations en vertu du droit international humanitaire. Mais là aussi, il ne le respecte pas, comme pour le reste des accusations. Et je cite un peu plus loin, des enquêtes. Alors, bien sûr, la Cour internationale de justice ne fait pas ça en chambre, entre discutant sans éléments d'information. Ils disent « L'enquête interne menée par l'ONU en 2024 a conduit au licenciement de 9 membres du personnel de l'UNRWA en raison de leur implication possible dans des attaques menées par le Hamas le 7 octobre 2023. » Alors, ils disent « C'est bien possible parce que sur les centaines de salariés de l'UNRWA, que certains étudient des sympathisants pour le Hamas, c'est bien possible. Ceux-là, ceux qui étaient suspectés ont été licenciés, et on n'en parle plus, et tous les autres ne sont suspectés de rien. Donc le personnel en poste, malgré ces accusations israéliennes, parce que qu'est-ce qu'Israël a tenté ? C'était de dire « Ah oui, mais l'UNRWA, c'est tous des agents du Hamas. » Et donc, ils ont lancé ça, ça a été reproduit « En veux-tu, en voilà autant de fois que nécessaire sur toutes les télévisions, toutes les états radio occidentales. Regardez, en fait, ils sont sous l'uniforme de l'ONU, mais c'est des militants du Hamas. » Et donc l'ONU a fait une enquête. Et l'enquête est très très claire. Il y avait 7 personnes qui étaient soupçonnées de sympathie pour le Hamas, qui ont été licenciées. Point. Donc les centaines d'autres ne sont pas susceptibles de... Et ça a été vérifié. Bon. Voyez, mais il faut voyez que chaque détail dans cette lutte pour la survie du peuple palestinien, chaque détail compte, puisqu'en permanence, on est confronté à des mensonges, à des manipulations de l'opinion par les sionistes et par leurs relais, hélas trop nombreux dans tous les pays occidentaux. Il faut chaque fois mener une enquête et dire non, ils ont dit ça, c'est pas vrai. Par exemple, je me souviens, le lendemain du 7 octobre, on parlait de bébés... égorgé, des choses comme ça. Bon, ça ne tenait pas. Mais une fois, alors vous savez qu'il y a une vieille règle dans l'information de masse, c'est qu'un démenti n'efface jamais totalement le mensonge initial. Le mensonge initial, il est spectaculaire, bien entendu. On a coupé la gorge à plusieurs bébés. Bon, ça impressionne, c'est écouté abondamment, c'est redit. Et puis quand après, il y a une enquête sur le terrain qui montre que ça ne tenait pas debout, que c'était faux, le démenti passe. Mais vous savez, c'est le coup classique dans la presse papier. Vous avez un gros titre. Dans la presse papier, c'est la même chose sur les médias audiovisuels. Vous avez un gros titre qui dit « des enfants israéliens égorgés ». Et puis vous avez, 15 jours après, quand l'enquête a été menée, en bas de page dans un coin, « démenti de l'ONU ». Il n'y a pas eu d'enfants décapités. Mais le démenti est tout petit. Le gros titre a fait la une et il a été vu dans le monde entier. C'est comme ça qu'on utilise le démenti, c'est-à-dire que c'est très difficile de revenir sur un mensonge. À la limite, plus il est gros, plus il est difficile à démonter après. Et surtout, celui qui a fait un si gros mensonge sait que son mensonge est énorme et donc il fera tout ce qui est en son pouvoir dans les milieux médiatiques, où on sait les influences jouent et où les questions d'argent jouent et les puissances de couloir jouent aussi, il fera tout ce qu'il peut pour que le démenti qu'il est obligé de faire publier soit le plus petit possible et le moins lisible possible. C'est ça la gestion des médias et il faut bien savoir que nous ne sommes pas en Palestine, nous ne sommes pas dans le combat en tant que tel ici, mais nous sommes dans ce combat idéologique permanent. C'est-à-dire qu'il faut que, on le sait, chacun d'entre nous le sait, surtout ici à Radio Galère, il faut en permanence que nous sachions que ce qui passe dans nos médias, dans la plupart de nos grands médias, fait partie de l'information qui a été fabriquée avec un objectif précis, c'est de dire qu'Israël a raison de rester là où il est, comme s'il était chez lui. Et puis après, quand au fil des jours, des journalistes consciencieux, quand ils ne laissent pas leur peau dans l'enquête, d'ailleurs, ben ça arrive aussi, les journalistes consciencieux vont voir, des observateurs de l'ONU sont envoyés, puis disent « Non, ce qui a été raconté tel jour sur telle horreur n'a pas eu lieu. » Mais c'est déjà très loin, et puis on va le dire beaucoup moins fort. Ça sera dans une rubrique particulière, ça passera. L'idée, c'est de dire « Il faut que ça passe inaperçu. » C'est-à-dire que le journal ou la chaîne de télévision ou de radio qui a menti, sait qu'elle a menti et elle évite de le reconnaître dans les proportions où elle a menti, elle. C'est-à-dire, elle reconnaît son mensonge, mais quand elle y est poussée dans le dos, et quand surtout, elle peut le cacher dans un petit coin où on n'en parle plus. Donc, la puissance du mensonge, on y reviendra tout à l'heure à propos de l'Afrique, l'Afrique noire, la puissance du mensonge est considérable, surtout quand elle est claironnée à longueur d'antenne sur toutes les chaînes de la planète. C'est ça, là. Et c'est ça, alors... Réjouissons-nous, on n'est pas au milieu des tirs de snipers israéliens ici à Marseille, mais on a cette bataille-là à mener tous les instants. Simplement quand on regarde nous, quand on écoute une émission, et simplement dans n'importe quel contact, vous allez rencontrer quelqu'un, à l'occasion on va parler, est-ce que vous avez vu ce qu'a fait le Hamas? Ça va ressortir dans la conversation, vous dites, mais qui a dit ça? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Mais c'est très très difficile. Et la personne qui s'est convaincue que le Hamas était sanguinaire, il faudra longtemps, il faut prendre une demi-heure, l'inviter au bar, boire un coup, viens, je vais t'expliquer. S'il accepte, autrement, il sera pris peut-être en défaut, il dira, ah, on m'a peut-être raconté des histoires, mais c'est assez gênant. Donc, quand vous avez quelqu'un en face de vous à qui vous dites, mais là, on vous a fait avaler n'importe quoi, vous avez cru n'importe quel mensonge, la personne, ça la met mal à l'aise. Ça la met mal à l'aise. Donc elle va avoir plutôt tendance à couper le débat en disant « Non, non, moi j'ai pas avalé ces mensonges » et elle va s'en aller en disant « Oh non, mais tout ça, j'y crois pas et vous n'aurez pas fait avancer l'affaire d'un pouce. » C'est ça.
De toute façon, l'expansionnisme israélien, il n'est pas simplement à Gaza. Il n'est pas simplement à Gaza, mais il se trouve pratiquement dans tout le Moyen-Orient et il n'en tient pas compte ni des Nations Unies.
Voilà.
Ni du truc international.
La Cour internationale des normes, bien sûr.
La Cour internationale, elle fait ce qu'elle veut. Voilà. Parce qu'il y a le parrain derrière, comme tu l'as bien dit, Bernard.
Il y a le parrain, il y a tous les amis et les réseaux. C'est-à-dire qu'Israël, en fait, a des interventions dans le monde entier, avec soit des Israéliens, soit des amis, soit des gens qui sont achetés dans les médias, ça existe aussi. Et donc, en fait, on a affaire à une coalition qui part d'un tout petit pays minuscule et qui, en fait, s'exprime sur la totalité des médias mondiaux. C'est ça la difficulté du genre. Et si jamais il y a un média qui prend ses distances, je pense en particulier aux médias russes, vous allez voir arriver Russia Today, cet organe est dépendant du gouvernement russe. Alors on dit, ah ben si c'est un... Bon, donc on ne les croit pas. Hein, c'est ça que ça veut dire. Et en fait, il faut savoir qu'il y a des médias en France qui ne sont pas contrôlés par le gouvernement français, mais l'agence France Presse, par exemple, qui est en principe une coopérative de tous les journaux presse quotidienne régionale, presse nationale et tout, n'est pas un organe d'État. Mais en tant que tel, vous ne verrez jamais l'agence France Presse dire des choses qui ne conviennent pas au gouvernement français. Mais simplement, on ne peut pas écrire, c'est vrai, que l'État français n'est pas au capital de l'agence France Presse. Ce sont les journaux eux-mêmes qui sont actionnaires. Mais ce qu'il faut savoir, ça je vous parle d'expérience, c'est que si vous allez à l'agence France Presse, imaginez, je me suis trouvé dans ces situations-là. Vous faites un communiqué à la suite au sujet d'une grève dans une entreprise quelconque. Vous faites un communiqué, le syndicat fait un communiqué, on dit voilà, nous sommes en grève pour ceci, pour cela, etc. Vous apportez le texte à l'agence France Presse, en espérant qu'ils vont le diffuser. Quand vous donnez un texte à l'agence France Presse, elle a des systèmes de relais. Alors avant c'était des fax et tout, maintenant c'est l'informatique, c'est des mails. Et donc dans le quart d'heure où vous avez déposé votre texte à l'agence France Presse, elle sera dans les rédactions de tous les quotidiens et tous les hebdomadaires français. Sauf si la personne qui est en poste au moment où vous arrivez à l'agence France Presse est membre de la police. Et à ce moment-là, votre papier va aller à la corbeille. Voilà. C'est ça. C'est comme ça que ça se passe aussi. Bon. Donc, ça, ouais. La guerre de l'information, la guerre dans nos têtes, c'est notre forme de guerre. Alors, c'est moins grave, on ne risque pas notre vie à faire ça, mais c'est une bataille importante. Et en fait, gagner cette bataille importante ici, ça permet à ceux qui se battent concrètement et qui menacent, qui dans la vie est menacé tous les jours, je pense aux Palestiniens en particulier, d'avoir un appui et d'arriver à trouver des gens qui vont dire, voilà la réalité du terrain à Gaza, voilà la réalité du terrain en Cisjordanie, ce n'est pas ce que vous pouvez lire d'habitude dans votre journal. Et donc c'est cet effort permanent qui, bien entendu, s'appuie sur la population palestinienne qui permet petit à petit de travailler l'opinion, de revenir sur des mensonges fabriqués en grande masse et de donner un courant de soutien, d'organiser un courant de soutien à la cause de la libération nationale de la Palestine. C'était là-dessus que je voulais insister. C'est tout à fait important parce qu'il faut que... Alors, lui, c'est facile, nous, on est dans un studio, c'est chauffé, il y a de la lumière, on est tranquille et tout. Simplement, ce combat pour l'information est le combat que nous devons mener pour essayer de sauver les Gazaouis qui risquent leur peau tous les matins. Hein, et même pendant les... Je parle même pas de cessez-le-feu, puisque là aussi le cessez-le-feu est une farce médiatique, hein, puisqu'il est respecté il est respecté par le Hamas et il n'est pas respecté par les autres. La seule partie du cessez-le-feu qui sera respectée, et ça fait écho exactement à ce qui s'est passé dans les tentatives de cessez-le-feu entre la Russie et l'Ukraine, c'est pour les échanges de prisonniers. Là, les échanges de prisonniers ont lieu. Ça s'arrêtera là, certainement, le cessez-le-feu, en rappelant que pour un Israélien libéré, il y a 100 prisonniers israéliens de libérés. Et dans le cas des échanges Ukraine-Russie, c'est à peu près du même tonneau. Les 10 échanges qui d'ailleurs se poursuivent. On a des chiffres qui tombent régulièrement, mais c'est 20 Russes libérés par les Ukrainiens, 1500 Ukrainiens libérés par les Russes. On est à cette échelle-là de proportion des échanges de prisonniers. Mais j'insiste sur le fait que dans ces deux cessez-le-feu-là, puisqu'il n'y a plus de cessez-le-feu en Russie pour l'instant, il n'y en aura peut-être plus du tout, dans ces cessez-le-feu-là, la seule partie qui est appliquée concrètement, c'est les échanges de prisonniers. Alors après, dans les prisonniers, il y en a qui sont morts de mauvais traitements, qui sont morts sous les je pense des prisonniers israéliens, qui sont morts sous les bombardements de leur propre armée. Mais ça, c'est pas la faute du Hamas. Hein, c'est pas la faute du Hamas. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Dernier mot sur le Hamas, je pense que je peux toujours le rappeler, et puis ça continue d'être d'actualité. Il faut savoir que l'ensemble des organisations palestiniennes qui luttent pour la libération armée de leur Palestine se sont réunies en Égypte et ont décidé de constituer un front commun. C'est-à-dire que toute négociation internationale, au moment où il y en aura nécessairement une sur la paix en Palestine, passera par ce cartel d'organisations. Donc il y a le Hamas qui est connu, il y a le djihad islamique, il y a le Front populaire de libération de la Palestine, il y en a quelques autres. C'est eux qui sont aujourd'hui détenteurs de la parole collective des Palestiniens. Arrêtons de dire c'est le Hamas qui, c'est le Hamas qui.
La négociation à Sharm el-Cheikh, les Palestiniens, ils n'étaient pas présents.
Voilà, alors il y a aussi des négociations où ils ne sont pas.
Voilà. Exactement, et puis ils ont fait ce qu'ils ont voulu à Sharm el-Cheikh.
Voilà. Alors, à ce propos, puisqu'on est sur le sujet, il faut savoir que donc, négocier pour les Palestiniens à Sharm el-Sheikh, dans cette station balnéaire du sud de la péninsule du Sinaï en Égypte, étaient donc des représentants du Qatar, des représentants de l'Égypte et des représentants de la Jordanie qui discutaient avec les États-Unis. Ce qui voulait dire que, et ça c'est bon de le rappeler, que les États-Unis étaient en train de confier la gestion du peuple palestinien et du territoire palestinien à des gens qui ne sont pas palestiniens. Ouais. C'est exactement la réponse que font aujourd'hui les organisations palestiniennes en disant « on s'est réunis nous en Égypte, mais après on n'était pas invités à Sharm el-Sheikh et c'est avec nous qu'il faudra négocier. C'est nous le peuple palestinien, c'est pas les autres. C'est ni le Qatar, hein, c'est ni la Jordanie, ni l'Égypte. » Il faut que les choses soient bien claires. Bon, donc voilà ce qui était utile de rappeler par rapport à ce qui se passe dans cet endroit-là du monde. Mais il se passe beaucoup, beaucoup d'autres choses ailleurs.
Surtout.
Hein? Oui, ouais, surtout. Beaucoup de choses ailleurs. Alors on va commencer par un petit détour. J'ai déjà évoqué la question Ukraine-Russie pour expliquer l'état des choses. On se souvient donc de la rencontre en Alaska, les deux présidents qui se voient, qui se sourient, qui ont l'air de se parler. Ça se passe très très bien, l'atmosphère est détendue, on se tape sur l'épaule. Enfin, c'était presque fraternel, comme deux vieux amis qui se retrouveraient. Alors, les vieux amis, parce qu'ils sont l'un et l'autre pas tout à fait jeunes. Trump est un petit peu plus âgé que Poutine, mais Poutine a quand même 70 ans. Bon, donc, c'était deux vieux copains qui se retrouvaient presque à la limite, puisqu'on sait que l'Alaska a longtemps été russe. Bon, avant de devenir États-Unis. Et puis tout d'un coup, ça s'est passé donc la semaine dernière, Vlatipak, ce moment de rêve où les deux principaux présidents semblaient s'être entendus, non pas sur tout, mais que le climat de relations s'était amélioré et que la Russie pouvait dire qu'elle pensait qu'on était sur le bon chemin pour parler concrètement des problèmes concrets et qu'on ne parlait plus de cesser le feu parce que cesser le feu, ça ne veut rien dire. Ça voulait dire quelque chose avant dans le langage états-unien, mais Trump avait abandonné. Alors qu'est-ce que ça voulait dire avant la réunion d'Anchorage? Ça voulait dire que pour les États-Unis, et donc pas spécialement pour Trump qui survolait un peu la question, mais pour les gens chargés des négociations, je veux parler en particulier du général Kellogg, le cessez-le-feu, ça voulait dire, bon, pour l'instant, l'armée russe, elle est là, et ben elle ne bouge plus et c'est fini. Hein. Et tout s'arrête là. Et la Russie avait dit non, c'est pas ça. Le problème, il est beaucoup plus ancien. Hein, c'est l'occupation des terres russes par l'armée ukrainienne. C'est l'assassinat des gens qui parlent russe. C'est l'interdiction de parler russe. C'est l'interdiction de la religion orthodoxe. C'est toute une série de choses. Et donc, évidemment, non. Ça ne peut pas s'arrêter à un cessez-le-feu. On regarde où sont les troupes et c'est fini. Rien n'est réglé. Et ça, la Russie n'a jamais changé de position là-dessus. Il faut régler tous ces problèmes-là. Le droit des peuples russophones à parler le russe, le droit des gens qui ont voté par référendum pour être rattachés à la Fédération de Russie et qui le sont concrètement, c'est-à-dire que le Donbass, le Zaporoïe, Kherson, toutes ces provinces-là qui étaient antérieurement sur le territoire de l'Ukraine, font partie de la Fédération de Russie avec des représentants au Parlement, etc. Et ça a été voté à la suite de référendums populaires. Bon, donc avec des résultats ne supportant pas la contestation. Et donc tout d'un coup, donc l'atmosphère plutôt positive de la réunion des deux chefs d'État en Alaska, tout d'un coup tourne au vinaigre, on pourrait dire pour faire simple, c'est-à-dire que tout d'un coup, Trump se fâche et dit non, ça va pas, il traite la Russie de tigre de papier, il dit que Poutine n'a pas de parole, enfin il se laisse aller. Alors qu'est-ce qui se passe? Comment ça fonctionne? Comment ça fonctionne la Maison Blanche et le gouvernement des États-Unis? Alors il se trouve que Trump, dans ce qu'il est, voudrait bien avoir une présidence plus tranquille. Il voudrait bien que le monde entier le reconnaisse comme le chef du monde et qu'on n'en parle plus. Et puis il y a des gens qui disent « Attention, là tu es en train de te faire marcher sur les pieds. Tu as été un peu charmé par le président russe. Hein. Reprends tes distances. Il est dangereux. » Alors que l'autre n'a jamais dit qu'il allait mettre son nez dans les affaires des États-Unis. Bon. Et donc, il y a une pression qui probablement est passée par le secrétaire d'État, donc le ministre des Affaires étrangères qui s'appelle Marco Rubio, ouais, pour ramener Trump dans la bonne ligne de l'establishment états-unien, c'est-à-dire on a des ennemis, on est les meilleurs, la Chine c'est le premier ennemi, la Russie c'est le deuxième ennemi, l'Iran c'est le troisième ennemi, et donc il faut tuer les ennemis puisque c'est la logique impérialiste des États-Unis depuis le début. Et donc on voit tout d'un coup ce Trump qui, après avoir était plus souriant, après avoir accepté de dire il faut négocier les problèmes sur le fond et pas simplement des cessez-le-feu, est obligé de montrer les dents, de faire toute une série d'acrobaties verbales dont il est assez coutumier pour dire que non, on ne peut pas travailler avec eux, on continue et je vais bien montrer que je veux continuer la guerre ou je veux qu'ils continuent la guerre qu'ils font à ma place, je vais leur livrer des missiles de longue portée pour aller casser la Russie. C'est-à-dire que je ne négocie pas avec la Russie, non seulement je négocie pas, mais puisque eux, ils acceptent pas nos conditions, je vais casser tout ce que je peux sur le territoire russe. Alors pas je vais casser, je vais donner aux néo-nazis en poste au gouvernement à Kiev les moyens de casser n'importe quoi sur le territoire de la Russie. Et ça a commencé. Tirer sur les raffineries, tirer sur les oléoducs, tirer sur les gazoducs, tout ça fait partie des politiques qui sont décidées par, disons, l'aile dure, donc l'aile classique impérialiste qui entoure le président Trump. Alors Trump, là au milieu, il est ballotté entre peut-être sa volonté de comprendre le problème ukrainien, parce que Poutine lui a bien expliqué, et donc quand on explique pas posément, et ils avaient pris le temps de s'expliquer, et puis il arrive chez lui, il rentre à la Maison Blanche, et il est assailli de pression, des durs à cuire, des va-t-en-guerre, ils disent non, ça suffit, il faut casser la Russie, ça suffit, il faut qu'on les élimine, ils font de l'ombre, ils deviennent trop importants, etc. Bon. Et donc, voilà l'espèce de jeu qui fait que l'opinion publique internationale peut être facilement désarçonnée. Mais c'est quoi? Alors, ils voulaient, ils ne voulaient pas?
Il y avait la pression de l'Occident aussi.
Voilà, alors, ce qui se passe, c'est qu'effectivement, dans cette position de Marco Rubio et de ce qu'on appelle les faucons aux États-Unis, les Européens sont à la fête, ils sont très très contents de cette politique-là, puisque au fond, ce que fait Rubio, c'est qu'il impose à Trump de reprendre la position des va-t-en-guerre qui sont Emmanuel Macron, Starmer et Merz en Allemagne fédérale. Voilà les trois. Alors, il s'est ajouté un quatrième va-t-en-guerre européen qui est la Pologne.
La Pologne, hein, la Pologne voilà. Elle est un peu...
Voilà. Alors elle se rend compte que l'os est un peu gros à manger. Hein, c'est difficile, c'est un gros morceau. Ils ont quand même pas mal souffert de leur voisinage avec la Russie. Vous savez que la Pologne a même été tellement maladroite dans sa politique étrangère qu'elle a disparu de la carte pendant 100 ans. Donc, quand on est polonais, on doit quand même réfléchir à deux fois avant de faire le malin, de dire « je vais régler les problèmes du continent, etc. J'ai une voie particulière à passer. »
Je pense qu'ils connaissent bien aussi la puissance de la Russie.
Voilà, ils s'en sont rendus compte concrètement. Et puis ils se sont rendus compte aussi, je pense qu'ils devraient avoir ce souvenir, que quand c'est les nazis qui investissent le territoire polonais, c'est une catastrophe mondiale, de taille mondiale. Hein. C'est la suppression d'une grosse partie de la population juive d'Europe, c'est le ghetto de Varsovie, c'est ça les nazis qui interviennent en Pologne. Donc je pense qu'avec un peu de mémoire, ça pourrait aller beaucoup mieux dans leur tête. Et je pensais à Trump parce qu'il y a à Marseille, au Mucem, une exposition sur Don Quichotte. Alors pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est très intéressant. Il y a, dans les débuts de l'exposition, une phrase qui parle de Don Quichotte et qui dit, en quelques mots, « Il est un peu fou, mais de temps en temps, il a des idées originales. » Et ça, j'ai pensé que ça s'appliquait très bien à Trump. Avoir des idées originales, c'est dire ben, je vais essayer de trouver un arrangement avec les Russes et un peu fou, après je vais leur dire que je vais les mettre en ruine, que leur envoyer des bombes atomiques, etc. Bon. Donc on en était là de cette affirmation, alors toujours ambiguë, puisque Trump est toujours ambigu, il ne va jamais au bout de ses phrases, il fait des allusions, mais il n'est pas précis, etc., qu'il allait mettre à la disposition de l'Ukraine des missiles de longue portée destinés à casser à l'intérieur l'industrie russe. Raffinerie en particulier, mais toutes les usines d'armement, etc. Et puis Vlatipa, et ça je m'arrête là-dessus parce que c'est très intéressant à noter, qu'il y a de ça 3 jours maintenant, la Russie affiche l'existence d'un nouveau missile d'un genre très très particulier, au point que je vais m'arrêter un peu sur ce genre de missile particulier. Ouais. Alors, j'ai pas l'habitude de faire de la technique militaire, mais il faut quand même essayer d'expliquer de quoi il s'agit. Alors, on parle beaucoup de missiles balistiques. Alors, missiles balistiques, ils partent du sol, ils montent dans la stratosphère et redescendent très très vite sur l'objectif. Donc, il fait une espèce de courbe en cloche dans l'atmosphère très très... Il peut être hypersonique, aller 8-10 fois la vitesse du son. Le nouveau missile, là, qui vient d'être présenté, est au contraire un cruise missile, ce qu'on appelle un missile de croisière, qui vole entre l'altitude de 50 mètres et de 100 mètres, qui est quasiment indétectable, qui ne va pas très très vite, un peu plus que le mur du son, mais qui est actionné par un moteur nucléaire. Les autres missiles, ils ont de la poudre, alors c'est du liquide ou du solide, mais c'est de la poudre, et quand elle est consommée, ben le missile, il retombe. Là, il s'agit d'un moteur nucléaire, c'est-à-dire que ce missile, à la suite des essais qui ont été faits par l'armée russe, peut faire 16 ou 18 000 km tout seul, se promenant. C'est-à-dire que ça veut dire, alors regardez la surface du globe, quand la Russie dit « moi j'ai ce missile-là qui peut se promener autour de la Terre et qui n'a pas de problème de carburant, je peux aller où je veux, quand je veux, et vous ne me verrez jamais arriver ». Alors il paraît qu'au niveau de l'OTAN et de l'état-major états-unien, on est en transe depuis l'annonce de ce nouveau missile-là. Alors ils ont été très très gentils, les Russes ont dit « on est en train, on a expérimenté, il marche, on est en train de lancer la production en série, avis aux amateurs ». Je peux. Ça veut dire, Trump, réfléchis bien, tu as été manipulé par les va-t-en-guerre, nous avons ça maintenant à notre disposition, et on peut à tout moment détruire la Maison Blanche, comme ça, et vous n'y verrez que du feu. Ah, bon, alors on en est là, des relations entre la Russie et les États-Unis. Donc Trump va réfléchir. Trump va réfléchir, il dit, ah oui, effectivement, les sept menaces. Alors ça panique un peu dans les états-majors, ça panique même beaucoup, parce qu'il y a de quoi, hein, vous rendez compte. Ils viennent d'inventer un missile qui n'existait pas. C'est la première fois qu'il y a un missile à proportion nucléaire, avec un moteur atomique. Ouais. Donc faire 16 000 km, ça veut dire qu'il peut passer par le pôle sud, remonter par le Brésil, arriver. Enfin, il peut passer n'importe où, quand il veut, comme il veut. Ouais. Et en plus, il est orientable, c'est-à-dire on peut lui faire faire un crochet, monter à droite, descendre à gauche, etc. Voilà. Donc panique des états-majors. Alors, je ne vais pas vous faire une leçon de stratégie militaire, mais c'est là-dessus que ça se joue en ce moment. C'est-à-dire que les rapports concrets militaires entre la Russie et les états numériques se jouent là-dessus. C'est-à-dire qu'ils se jouent en partie, il faut qu'on s'habitue à ça, à une avance technologique évidente de la Russie sur toute une série de systèmes d'armes. Et ça, les États-Unis ont de la peine à l'accepter parce qu'ils ont toujours pensé qu'ils étaient les meilleurs en matière de système d'armes, qu'ils étaient en avance sur tout. Ils ne sont plus en avance sur tout. Et donc, pour eux, c'est un début de perte de domination. C'est-à-dire, pendant toute la période, pendant en gros de 1945 à il y a quelques années, où ils étaient très en avance sur tous les autres pays du monde en matière de technologie militaire, ils n'avaient peur de personne. Dès l'instant où il y a un pays qui est en avance sur eux, ils s'installent dans l'angoisse existentielle. Voilà le premier motif d'angoisse existentielle. Et puis, tant que j'y suis, je vais en livrer un deuxième, parce que cette semaine a été extrêmement fertile. Un des plus vieux porte-avions de l'armée des États-Unis, le Nimitz, était en train de se promener quelque part au sud du Vietnam, entre le Vietnam et les Philippines, etc. Et il se trouve que un avion plutôt, un gros avion, et un hélicoptère, une demi-heure d'intervalle, sont tombés à la mer, tout seuls. Ils n'ont pas une collision, il y en a un qui a décollé, puis un moment après il est tombé à la mer, puis à un moment donné après, il y a l'hélicoptère qui est parti du porte-avions et qui est tombé aussi à la mer. Ils n'ont été attaqués par personne, il n'y a aucun tir de missile, il n'y a rien du tout, il n'y a pas eu de combat aérien. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors je rassure tout le monde, les équipages ont été récupérés, ils se sont éjectés, ils ont été récupérés. Ça veut dire qu'on est dans un cas de ce qu'on appelle la cyberguerre, c'est-à-dire une attaque électromagnétique contre les systèmes de commande de cet avion et de cet hélicoptère qui est parti de quelque part. Mais une émission électromagnétique, ça peut partir, voilà. Et donc là, alors je vais être clair, ça c'est un petit signal que la Chine est en train d'envoyer aux États-Unis. Donc voilà, si vous venez trop faire des manœuvres au large de mes côtes, si vous mettez à faire le tour de Taïwan pour montrer que c'est chez vous, etc., ça risque de vous arriver. Mais alors là, je ne vais pas vous le lire en détail, mais il était suave, le communiqué du ministère de la Défense chinoise à la suite de ces deux accidents a été délicieux en disant les techniques progressent, faire des tas de choses. Il a évidemment pas reconnu que c'était les Chinois, mais il dit personne n'est à l'abri de ce genre de choses, la cyberguerre ça existe, etc. Donc un commentaire très, très académique du ministère de la Défense chinois qui fait comme s'il découvrait le problème en même temps que les États-Unis, alors que bien entendu il est loin de le découvrir puisqu'il en est l'auteur. Vous voyez comme quoi en 8 jours, M. Trump qui était reparti pour à nouveau faire la guerre aux États-Unis, puisqu'il le disait, est en train de reprendre les choses en considération, dire « Ah, bon, du côté russe, ça ne va pas si facile que ça, du côté chinois, ça ne va pas être si facile que ça, il va peut-être falloir qu'on discute concrètement, qu'on ne fasse pas des grandes phrases en disant « celui-là, il est mauvais, il est méchant ». Donc, sortir du discours manichéen, il n'y a pas les bons et les méchants, il y a des puissances, il y a des pays qui ont des budgets, qui ont des capacités, qui ont des technologies, qui ont des ingénieurs. On parle du réel, on parle pas de... c'est pas une bande dessinée avec un bon et un méchant. C'est pas Lucky Luke dans le désert. C'est tout autre chose. Et c'est à ça qu'on va revenir progressivement. Mais évidemment, Trump pourra revenir en disant, il pourra dire à ses militaires, vous m'aviez dit qu'on était les meilleurs. Mais quand même, il faudrait les regarder d'un peu plus haut, on n'est peut-être pas si bon que ça, il faudrait peut-être qu'on soit un peu plus prudent dans nos propos. Tout ça, c'est compliqué, c'est difficile à suivre, ça peut changer quasi quotidiennement, toutes les semaines, il peut y avoir des allers-retours. Il faut que nous nous habituions à cette donnée, c'est-à-dire que éviter ce que font beaucoup de journaux et de médias dans nos provinces occidentales, dire tout d'un coup, ça y est, il a perdu, ça y est, il a gagné, ça ne se passe pas ni à ce rythme-là, ni de cette façon-là.
Non.
Ce sont des évolutions longues, mettant en jeu des grandes puissances, d'énormes moyens financiers, d'énormes moyens scientifiques, technologiques, d'énormes moyens industriels, il y a ça aussi. Et donc, tout ça prend du temps à se mettre en place. Voilà. Alors, que dire de plus ? Si, dernière chose, oui. Dernière chose concernant la Russie, il faut savoir que, en même temps qu'il annonçait, que Poutine annonçait la possession et les essais de ce nouveau missile, pour l'instant imparable, hein, il n'y a rien d'équivalent, il n'y a rien pour l'empêcher, il faisait une visite sur le front, au plus près de la ligne de combat, c'est-à-dire ce qu'il n'a jamais fait. Il est allé, en prenant des risques, parce que je pense que l'opération a été couverte, tenue secrète assez longtemps et tout, avec ce qu'il fallait d'uniforme militaire et puis je pense de gilet pare-balles, mais il a pris le risque d'aller à quelques kilomètres de la ligne de front, ce qu'il n'avait jamais fait jusqu'à présent. Ce qui veut dire, et ça, bien sûr, ça a été médiatisé en Russie, ça veut dire que pour la population russe, et y compris pour nous qui regardons ça de l'extérieur, il est clair que Poutine est le chef d'un pays qui est en guerre, qui sait qu'il est en guerre non pas contre les Ukrainiens, mais qui est en guerre contre les États-Unis et contre l'OTAN subsidiairement, et qui fait comme ce qu'il doit faire en tant que chef d'État et chef de guerre qui est en cours. Car, alors là où ça clarifie la situation, c'est que le pitre Zelensky n'existe plus là-dedans. Il n'existe plus, enfin il existe physiquement, mais il n'a plus d'intérêt, puisqu'en fait il est très clair, et ça a été dit très très clairement par le ministre des Affaires étrangères russe Lavrov, les États-Unis nous ont déclaré la guerre, nous prenons acte, on est là et on va bien voir ce qui se passe. Donc les choses se clarifient, et ça, c'est très intéressant de le redire en France, puisque nous on a un gouvernement qui était très content que les Ukrainiens fassent la guerre à la Russie, et puis quand on leur met le nez sur la figure en disant ben voilà, c'est pas les Ukrainiens qui sont en guerre contre la Russie, c'est les États-Unis et tout ce qu'il y a derrière, mais c'est surtout les États-Unis, à ce moment-là, ça oblige les chefs européens à réfléchir un peu à ce qu'ils font.
Medvedev, il est en Amérique, là, à un moment.
Oui. Oui, alors là aussi, il y a toute. Alors, dans ce nouveau reprofilage des relations, il y a eu effectivement le voyage de. Il y a Medvedev, il y a Dmitriev, qui est le spécialiste des investissements économiques, qui est allé aussi, qui lui parle au milieu d'affaires. Et qu'est-ce qu'il va dire au milieu d'affaires américain ? Mais attendez, la Russie est souveraine, elle a d'immenses richesses dans des tas de minéraux, de pétrole, de gaz, etc. Et rien ne dit, et vous ne pouvez pas dire que nous n'acceptons pas les investissements étrangers. Simplement, laissez-nous tranquilles, arrêtez cette guerre stupide et inutile, et vos entreprises pourront venir s'installer chez nous, faire des affaires, dans des opérations où on aura peut-être le contrôle du capital et tout, mais de toute façon, dans un état de paix, on peut très bien se comprendre, et vous pouvez défendre les intérêts de vos entreprises. Mais dans l'état de guerre, on ne vous accepte pas, puisque potentiellement, vous êtes nos ennemis, hein, puisque maintenant il est clair, et c'est ça la grande évolution de ces dernières semaines, la Russie a bien écrit, dit et répété, nous sommes en guerre contre les États-Unis, c'est pas nous qui l'avons voulu, c'est eux. Hein. Et donc, exit le fantoche Zelensky, qui ne pèse plus rien, et qui est en train peut-être de compter ses milliards avant de s'en aller. Parce que là aussi, il y a des questions d'argent. Vous savez que Trump regarde toujours ce qu'il y a sur le compteur. Et il dit quand même, quand on envoie beaucoup d'argent en Ukraine, il y en a beaucoup qui se perdent en route. Ah bon ? C'est quoi la route ? C'est où la route ? Et ça va où ? Alors, ça part dans différents endroits du globe. Et puis apparemment, il y en a une partie. Alors moi, j'ai vu quelques chiffres qui circulent dans la presse américaine. C'est autour de la centaine de millions de dollars le mois que Zelensky détourne. Alors regardez, en 3 ans, ça fait pas mal. Hein ? Et ça doit aller. Alors il paraît qu'il a des propriétés en France, qu'il en a sur la Costa Brava en Espagne, qu'il en a à Chypre.
En Angleterre.
Bon, il a pu acheter. Mais à ce rythme-là, 100 millions de dollars par mois, ça fait quand même un joli pécule pour faire le travail qu'il a fait. Mais il est clair que la mission est en train de s'achever. Elle perd désormais tout son sens. On a bien affaire à un face-à-face, Russie-États-Unis, sur la question de la guerre en Ukraine. C'était important de le rappeler. Au niveau militaire, ben je le précise puisque ça se dit, mais ça ne se dit pas beaucoup. Au niveau militaire, l'armée russe est en train d'avancer à peu près partout et de réduire toutes les places fortes qu'il existait encore sur le territoire des républiques russes. Donc là, on peut imaginer, et ça peut être une affaire de quelques semaines, que la fin des combats serait peut-être plus proche qu'on ne le pense, mais pas sous forme d'un cessez-le-feu, mais sous la forme d'une capitulation de l'armée ukrainienne. C'est la seule porte qui reste. Bon. Parce que l'armée ukrainienne, elle est démontée. Il y a autant de soldats étrangers que d'Ukrainiens dedans.
D'ailleurs, ils sont actuellement encerclés.
Hein, oui, à Pokrovsk, comme à Lugansk. Oui, tout à fait. Donc là, ce qui est quand même frappant, et je le dis, c'est que les dépêches donc occidentales officielles sur la guerre en Ukraine disent à peu près le contraire. C'est-à-dire, chaque fois que l'armée russe avance, vous mettez Ukrainien à la place de Russe, et on vous vend exactement la même information qui dit exactement le contraire. Bon. Heureusement, il y a des observateurs internationaux objectifs qui font bien leur travail, qui lisent le russe, qui écoutent les chaînes russes, etc., qui vérifient sur le terrain, et donc on sait, mais maintenant c'est assez systématique, c'est d'une grande pauvreté à la limite. Si vous avez vu que les dépêches de telle ou telle agence, chaque fois qu'il y a russe, vous mettez ukrainien, l'Ukraine est en train de voler de victoire en victoire. Alors on rit beaucoup, l'Ukraine ne vole pas de victoire en victoire, hein, c'est loin d'être le cas, et donc la capitulation est beaucoup plus proche à mon avis, qu'on ne le pense. Bon, on verra. Puisqu'on en est là, ah oui, je regarde l'heure, on va faire un petit saut en Afrique, alors j'explique. J'explique ce qu'on va faire passer tout à l'heure, mais pas tout de suite.
Je voulais que tu en parles du voyage de Trump là, en Asie.
Alors, effectivement, c'est que... Voilà, ce qui va, mais on en parlera abondamment mardi prochain, puisqu'en fait, savez que, je crois que c'est demain, donc il y a une réunion qui se passe en Corée du Sud, où normalement, Trump doit rencontrer Xi Jinping. Alors, est-ce qu'il va se passer la même chose que ce qui s'est passé en Alaska? C'est probable, c'est-à-dire il va revenir de cette réunion en disant « Ah ben j'ai parlé, c'est un type bien, comme il dit toujours, ah il est intéressant et tout. » Et puis après, on verra bien ce qui se passe dans les coulisses de la Maison-Blanche, parce que ça peut être exactement le contraire qui se passe la semaine d'après. Mais effectivement, ça c'est l'affaire importante de la semaine, c'est-à-dire qu'il va peut-être... Le jeu, on l'a compris, parce que c'est le même jeu depuis 2 ans ou 3 ans maintenant, ça consiste à dire « Il faut que la Chine arrête de soutenir la Russie ». Bon, là, je crois qu'il perd son temps gentiment et que l'autre lui dira gentiment que la Chine choisit ses amis et que c'est comme ça et qu'il n'y a rien à dire de plus. Et puis, en plus, Trump est dans une position pas très forte au niveau économique, puisque vous savez qu'à travers l'histoire des terres rares, j'en ai déjà parlé, la Chine... l'empêche pratiquement de lui faire des misères économiques et que, au fond, les États-Unis ont beaucoup plus à souffrir d'une rupture des relations économiques avec la Chine que la Chine dans le sens inverse. Bon, donc, de ce point de vue-là, ça n'ira pas très loin. Je pense que les comptes sont déjà faits, puisque une partie des sanctions qui avaient été annoncées ont déjà été annulées par le secrétaire d'État au commerce américain qui a dit non, ça on ne le fait pas. C'est des menaces qu'on a proférées comme ça, mais c'était aller trop vite en besogne, on n'en parle plus. Donc, effectivement, les relations économiques étant en défaveur manifeste des États-Unis, la question de l'alliance avec la Russie pèsera pas d'un très très grand poids, à mon avis, mais peut-être Trump se laissera, non pas convaincre, mais peut-être il aura des arguments à amener à ses collaborateurs de Washington. Écoutez, ça va être difficile quand même de détruire la Chine. C'est un gros morceau. C'est un gros morceau. Je signale que la Chine, très très tranquille par ailleurs, a tenu sa réunion du comité central du Parti communiste chinois la semaine dernière et que, très tranquillement, le comité central du Parti communiste chinois a fait le bilan du plan quinquennal qui s'achève au 31 décembre de cette année et a lancé les bases du plan quinquennal suivant qui doit être le 15e si ma mémoire ne me trompe pas. Et donc de 2026 à 2030, on sera au 15e plan quinquennal chinois qui est décidé à augmenter encore les capacités et la maîtrise technologique, toute technologie confondue, de la République populaire chinoise. C'est-à-dire qu'ils sont déjà sur ce chemin-là et ils vont encore aller plus avant. C'est-à-dire que l'objectif... Alors ça m'a fait rappeler, c'est assez marrant, parce que quand Mao arrive au pouvoir, l'objectif c'est que je nourrisse mon peuple. Qu'on ne puisse pas faire pression sur moi parce qu'il n'y a pas assez de riz, pas assez de blé et tout. Objectif atteint. Autosuffisance alimentaire. Ensuite, il va mener un combat rude avec l'Union soviétique, il faut le rappeler, pour avoir l'autonomie stratégique, c'est-à-dire faire sa bombe atomique alors que les Russes ne voulaient pas qu'il l'ait. Il l'a eu. Et puis maintenant, on en est à l'autonomie technologique et scientifique, c'est-à-dire il y a dans les universités chinoises suffisamment de têtes pensantes et de têtes bien faites pour être à la pointe de toutes les techniques possibles du monde entier telles qu'elles sont aujourd'hui. C'était l'instant où nous ne sommes plus dépendants de la technologie de Pierre Bolloujac, qui soit anglais, allemand, japonais, etc. Nous sommes maîtres de notre destin et personne ne peut faire pression sur nous. Voilà, voilà l'objectif, donc je crois que c'est le 16e plan quinquennal. C'est l'occasion de rappeler qu'en Chine, il y a des plans quinquennaux, comme il y avait à l'époque en Union soviétique, que ça ne fonctionne pas tout à fait pareil, c'est-à-dire que pour l'exécution de ce plan quinquennal, donc, qui est donc la directive de travail du Parti communiste chinois au pouvoir, après, il y a une grande liberté d'action sur le terrain, c'est-à-dire ça va être, toutes ces tâches-là vont être faites par des entreprises privées ou des entreprises publiques, par des universités privées ou par des universités publiques, par des think tanks privés à l'occasion. Tout le monde collaborera, mais le cadre de travail est fixé par l'organe politique dominant qui est le comité central du Parti communiste. C'est ça. Alors, ça, on ne veut plus nous le voir parce que je dis ça. Si je dis ça à la radio, on va dire ça, c'est de la propagande communiste. Non, simplement, c'est l'observation d'un régime qui fonctionne comme les nôtres ne fonctionnent plus. C'est-à-dire que nous avons sous les yeux, si on prend le temps de réfléchir deux secondes, des gouvernements qui en sont à penser au communiqué qu'il y aura demain dans le New York Times, hein, ou de l'image qui passera sur CNN avec monsieur Macron et Madame Brigitte Trogneux, et puis qui ne se préoccupent pas de l'avenir. Est-ce qu'à un moment donné, vous avez entendu M. Emmanuel Macron parler de l'avenir à 30 ans? Non. Si ce n'est un peu sur le changement climatique, des choses comme ça. De toute façon, comme les décisions ne suivent pas les paroles, ça n'a pas d'importance. Tout ça, c'est du bavardage. Donc, le court-termisme est écrasant et en face, on a du développement à long terme et de la planification. C'est-à-dire, on a d'un côté des gouvernements sérieux qui font leur travail de gouvernement, c'est-à-dire faire avancer leur population. Dans la décision du comité central, il a été rappelé que tout ce progrès était destiné finalement à améliorer la condition du peuple chinois. Hein, j'attends ça dans les communiqués de l'Élysée, je ne le vois pas. Hein. Bon, donc c'est ça que nous avons sous les yeux. Ce n'est pas de la propagande, c'est la réalité des faits. C'est la réalité qu'on ne veut pas nous laisser voir. Voilà. Alors, tout ça, c'était un petit détour pour arriver à la suite des événements qui étaient des événements en Afrique. Ouais. Alors, en Afrique, il s'est passé ce samedi encore une élection extraordinairement trouble. Hein. Alors, on a eu, c'est ce que Ahmed vient de me dire, on a eu finalement le résultat de l'élection présidentielle camerounaise qui a eu lieu il y a 3 semaines, je crois, c'est le dimanche, il y a 3 semaines, où on ne savait pas ce qui était sorti des urnes. Alors, comme il y avait une mauvaise surprise dans les urnes, ben, on a tout bouclé, on a mis du scotch par-dessus. Donc il n'y a pas de mauvaise surprise au Cameroun. C'est M. Biya, 91 ans, si je ne me trompe, ouais, qui a été... 91 ?
92 ans.
4 ans encore mieux, bravo, bravo, quel homme, quelle verdeur. Bon, voilà, il a été réélu, de toute façon on ne sait pas, on n'a pas de procès verbaux, c'est pas grave, il a été réélu et il tient le pouvoir fermement jusqu'à ce que, j'allais dire, bon voilà, n'en parlons plus. Et donc, ceci étant confirmé, mais ça a mis le temps, donc 3 semaines pour sortir d'on ne sait où des résultats qui le donnaient vainqueur, on a assisté ce samedi, donc 25, à des élections étranges en République de Côte d'Ivoire. Élection étrange dans la mesure où effectivement M. Ouattara, donc, qui était postulant pour un 4e mandat alors que la constitution ivoirienne n'en prévoit que 2, alors il avait déjà violé la constitution pour en faire un 3e, il l'a reviolé encore une fois pour en faire un 4e, et il serait élu. Alors je rappelle les conditions, il serait élu d'après les quelques chiffres qu'on a pu avoir. Il serait élu face à une absence d'opposants, puisqu'en fait les opposants qui avaient du poids politique, qui auraient du sens, ont été écartés de la compétition sous de faux prétextes. Hein, je pense à donc M. Thiam et à M. Gbagbo Laurent. Bon. Et donc il ne restait face à M. Alassane Dramane Ouattara que des comparses, l'ancienne femme de Laurent Gbagbo divorcée,
Simone Gbagbo. Hein,
Simone, oui, Simone. Donc ouais, des personnages de seconde importance qui, d'après les chiffres qui ont circulé, ont fait les uns 45 voix, les autres 200 voix, etc. Et M. Alassane Dramane Ouattara lui serait hors concours avec tout de suite une majorité absolue, etc. Bon. Il se trouve que c'est pas exactement comme ça que ça va se terminer. Pourquoi ? Parce que avant donc cette élection, cette élection bizarre, donc où les vrais concurrents qui auraient donné une compétition politique régulière avec des programmes, des personnages de poids à la tête de partis importants, il y a eu une espèce de mascarade, quatre figurants dans une comédie et le monsieur qui a ramassé la mise parce que c'est tout était organisé pour ça. Bon. Il se trouve que il y a eu avant cette élection des manifestations de masse sur la base, ce scrutin est un braquage électoral, c'est-à-dire on oblige le peuple à voter alors qu'il n'y a pas de choix, puisque de toute façon on sait déjà qui sera élu et que les quatre autres candidats ne représentent à la limite qu'eux-mêmes, ils ne sont pas à la tête d'un parti, ils ne sont rien du tout. Là, je n'ai rien contre Mme Gbagbo-Simon, mais elle est à la tête de rien du tout, si ce n'est qu'elle porte le nom du président dont elle a été l'épouse. Bon. Donc la comédie est manifeste, elle est réelle. Ce qui se passe, c'est que à partir du moment où on annonce ce faux résultat dans une fausse compétition, donc ce braquage électoral, la population qui n'a pas voté dans une majorité des circonscriptions, qui n'a pas voté alors que tout a été fait pour qu'il vote. Je vous signale qu'on a pu voir sur la télévision ivoirienne des files de gens devant des tentes dans les rues à qui on donnait de l'argent pour qu'ils aillent voter pour le candidat sortant. Ouais. Et c'était officiel, c'est-à-dire les gens disaient « Ah oui, je vais là parce que là, ils distribuent des francs CFA pour que je vote pour lui. » Alors je ne sais pas comment on vérifiait qu'ils... Mais enfin, donc, on a acheté... C'est assez étonnant parce qu'on a acheté donc dans la rue, avec des tentes, avec le nom du parti, du président, on a acheté les votes et les gens faisaient la queue, ils venaient prendre leurs sous, puis ils allaient faire leurs courses avec. Bon, ça n'a pas donné beaucoup de résultats et ça montre un peu l'impasse politique de ce personnage et de son organisation politique, puisqu'ils achètent ouvertement leur voix. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire donc que les gens majoritairement n'ont pas voté, que la campagne donc de manifestation contre cette fausse élection présidentielle va se continuer, qu'elle va se continuer de façon probablement beaucoup plus dure. Alors il y a déjà eu des morts pendant la campagne électorale, il faut le savoir, on n'en a pas beaucoup parlé, et qu'il risque d'y en avoir d'autres maintenant, parce que de toute façon, ceux qui ont été bernés, ou qui ont vu et qui savaient qu'ils allaient être bernés, ont décidé de ne pas accepter. Donc, M. Ouattara est élu, mais il n'y a que lui qui y croit. Je le résume en simplifiant. Et lui et ses amis. Alors, qui sont ses amis ? Je vais commencer par le premier, M. Emmanuel Macron, M. Trogneux, de son nom de famille. Voilà. Donc, ça c'est là. Oui, le mari de Mme Trogneux, pardon. Ouais. Donc, bon, ça, c'est, voilà. Seulement, cet ami-là n'est ben, peut-être pas si puissant qu'il l'a été. Et c'est l'occasion, donc voilà la situation en Côte d'Ivoire qui méritait d'être expliquée, et c'est l'occasion de reparler d'un de ceux qui aurait dû se présenter et qui était postulant et qui avait la capacité de mener un débat politique, non pas de dire du mal de M. Ouattara, mais de mener un débat politique à la tête d'un parti politique avec un programme, avec une orientation, enfin de faire cette élection qui était une farce. Lui, il a dit braquage électoral, c'est une farce, une vraie élection avec un enjeu, des programmes, des candidats qui savent de quoi ils parlent et qui expliquent pourquoi il faut voter pour eux et leur parti. Bon. Alors ce monsieur s'appelle Laurent Gbagbo. On le sait. Et Laurent Gbagbo a cette particularité qu'il est revenu en Côte d'Ivoire après avoir été acquitté par la Cour pénale internationale. Et monsieur Laurent Gbagbo a écrit une lettre à monsieur Nicolas Sarkozy. Alors je vous la lis. Alors pourquoi il écrit une lettre à M. Nicolas Sarkozy ? Ça c'est très très important. Parce qu'il faut savoir que en 2000, M. Gbagbo a été élu président de la République en 2000. Il a fini son mandat fin 2010 et donc il a été élu, il a gagné les élections, mais la France n'a pas reconnu cette élection. La France de Nicolas Sarkozy, on est donc en janvier-février 2011, la France n'a pas reconnu parce qu'elle ne voulait pas que M. Gbagbo soit à nouveau président. Encore qu'elle lui ait déjà... sérieusement compliqué la vie pendant son premier mandat entre 2000 et 2010. Bon. Et donc, monsieur Sarkozy connaît très bien monsieur Gbagbo et monsieur Gbagbo sait très bien ce que monsieur Sarkozy lui a fait. Je vais vous donner un exemple. La commission électorale proclame, et le conseil constitutionnel proclame monsieur Gbagbo élu ayant gagné l'élection de 2010. Bon, ça ne rentre pas dans le schéma de l'Élysée, ni dans le schéma de la Maison-Blanche, et on va faire annoncer le résultat des élections par le représentant permanent de l'ONU à Abidjan, ce qui ne s'est jamais vu. De quel droit l'ONU vient proclamer le résultat d'une élection présidentielle dans un pays étranger, hein, sous la forme d'un ambassadeur ? Bon, tout ça a fait que la position de l'Occident, donc porté par Sarkozy, mais soutenu par les États-Unis, c'était de dire on ne veut pas que Gbagbo fasse un nouveau mandat, il faut que ce soit Ouattara qui gagne. Alors bien sûr, Gbagbo n'est pas d'accord, il dit mais attendez, mais c'est moi qui ai gagné. Un bon matin, alors les troupes françaises viennent encercler le palais présidentiel. Encercler le palais présidentiel où M. Gbagbo dit « Mais j'ai été réélu, j'ai gagné les élections, laissez-moi gouverner. » À ce moment-là, je vous donne des anecdotes pour vous donner l'atmosphère. Il sort du palais présidentiel, un monsieur dont je ne me souviens pas le nom, qu'importe, un monsieur qui est le ministre de la Justice du gouvernement de Laurent Gbagbo. Ce monsieur sort du palais présidentiel avec un drapeau blanc et l'armée française le tue. Là-bas, comme un chien devant la porte du palais présidentiel. Bon, moi, ça, c'est un des actes de la République française. Ensuite, M. Sarkozy décide, à partir du moment où il voit que M. Gbagbo veut faire respecter le choix des urnes, supprime toute arrivée de médicaments sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire pendant 3 mois. C'est-à-dire, il n'y a plus rien dans les hôpitaux, on ne peut pas se soigner, etc., etc. Bon, ça, et parmi d'autres vilainies, voilà. Alors, il y a eu 3 mois épouvantables, donc de janvier 2011 à avril 2011. In fine, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que M. Gbagbo a été enlevé, nuitamment, emmené dans le nord du pays, dans une prison. Il a été séquestré, et au bout de quelques mois de séquestration, il a un beau matin d'hiver, ou d'automne, on était en hiver, on l'a pris au petit matin au lever, il était en t-shirt et en pantalon, on l'a mis dans un avion, et il s'est retrouvé à la Cour pénale internationale, au plein mois de novembre, dans ce triste état. À la Cour pénale internationale, donc d'octobre ou novembre 2011, jusqu'à son acquittement, en 2009, il est resté emprisonné, donc à la Cour pénale internationale. Alors, il est resté emprisonné parce qu'il y a toujours l'attente du procès, la préparation, puis le procès lui-même. Alors, le procès lui-même a été long, compliqué, mais il s'est passé dans les règles de l'art et dans les règles de la procédure de la Cour pénale internationale. Et M. Gbagbo a été acquitté de tous les crimes qu'on lui avait imputés. Donc, il est sorti libre et propre. Et il a fini par rentrer dans son pays après encore quelques anicroches administratives. Bon. Voilà ce qui explique la lettre que je vais vous lire que M. Gbagbo écrit à M. Nicolas Sarkozy.
Il est en prison.
Hein, voilà. Et il dit, je vous la lis. « J'ai lu avec émotion les mots de M. Nicolas Sarkozy, ancien président de la République française, au moment où il s'apprête à franchir les portes d'une prison. » Ces mots résonnent en moi, car moi aussi, j'ai connu les murs froids de la détention. J'ai connu les longues nuits d'interrogation, les regards accusateurs, les jugements précipités, et surtout, le silence de ceux qui savaient mais ne parlaient pas. Mais la différence, c'est que lorsque moi, M. Laurent Gbagbo, j'étais enfermé à la Cour pénale internationale, c'était sous la présidence même de celui qui aujourd'hui dénonce l'injustice qu'il subit. La vie, voyez-vous, est un grand professeur. Elle enseigne toujours, tôt ou tard, à chacun selon sa leçon. J'ai appris dans la souffrance que la vérité finit toujours par sortir, même si elle prend son temps. J'ai appris que la justice des hommes est souvent lente, parfois aveugle et trop souvent influencée. Mais j'ai aussi appris que la justice de Dieu, elle, ne se trompe pas. Aujourd'hui, je suis en liberté, dans mon pays, entouré de mon peuple. J'ai pardonné, non pas parce que j'ai oublié, mais parce que j'ai compris que la haine est une autre prison, plus terrible encore que les murs de la haie. Écoutez bien cette phrase. La haine est une autre prison plus terrible encore que les murs de la haie. Phrase forte. J'invite donc M. Sarkozy à vivre cette épreuve non pas comme une humiliation, mais comme une initiation. Qu'il médite sur ce que signifie réellement la justice, la dignité et la vérité. La vie n'est pas une ligne droite. Elle tourne, elle enseigne, elle surprend. Ce que l'on impose injustement à un autre peut un jour se retourner contre vous. Puisse cette expérience lui faire comprendre que gouverner, ce n'est pas dominer, mais servir, juger, que ce n'est pas condamner, mais comprendre. Car au fond, ce ne sont ni les juges, ni les puissants, ni les titres qui rendent un homme juste, c'est sa conscience. Sachons raison garder. Au-delà de nos divergences politiques, il est plus que jamais nécessaire de rappeler ce qui fait notre force, notre diversité et notre fraternité. La stigmatisation d'une communauté, quelle qu'elle soit, est une grave menace pour notre nation. Lorsqu'une seule est pointée du doigt, pour quelque prétexte que ce soit, c'est tout l'édifice de notre propre pays qui vacille. Aucune région, aucun groupe, aucune confession ne doit être tenue pour responsable d'actes isolés de quelques individus. Préserver la cohésion entre nos communautés est un devoir sacré. Les discours de haine, les appels à la division ou à la vengeance ne servent que ceux qui souhaitent affaiblir notre pays. Et sur cette phrase, j'ajoute la phrase historique de Nicolas Sarkozy, « Passez-moi tout ça au Karcher !» Voilà un président de la République qui en a, comme on dit vulgairement. Et bien voilà, c'est tout le contraire de Laurent Gbagbo. Donc, très très belle lettre de Laurent Gbagbo à Nicolas Sarkozy, qui est face à sa conscience, si jamais il en a une, mais après tout le monde peut en avoir une s'il fait un petit effort. Voilà. Alors, donc ça, c'était une façon d'introduire la séquence suivante, qui est un petit morceau de bravoure de M. Ibrahim Traoré. Monsieur Ibrahim Traoré, donc vous savez, c'est le nouveau président du Burkina Faso qui est arrivé à la suite d'un coup d'état militaire qui a renversé donc le pouvoir entre les mains de Paris et qui répondait, alors comme il fait Ibrahim Traoré, d'abord il a 35 ans, il n'a pas 92 ans comme Biya, et il circule dans la rue et il discute avec les gens, il y a des gens qui ont des micros, on lui parle, il répond, etc. Et là je vous passe les quelques dernières minutes d'un entretien qu'il a dans la rue avec des gens qui l'interrogent, parce que les Ivoiriens, donc le régime de Alassane Ouattara, a dit, en fait, il y a une intervention du Burkina Faso dans nos élections, c'est inacceptable. Et il a dit, vous allez voir, il répond sur la base des fausses nouvelles. Alors il dit fake, comme tout le monde, dit, les fausses nouvelles, bon, ils s'en fabriquent tout le temps, nous on vit avec, on est tranquille. Alors vous allez voir la placidité de M. Ibrahim Traoré, tranquille dans son uniforme et dans ses 35 ans, et dans sa bonne santé mentale et physique manifestement, qui, dans les dernières minutes de cette rencontre avec la population, dit un certain nombre de choses très intéressantes sur les fausses nouvelles. Voilà, on écoute Ibrahim Traoré.
Nous, on n'a pas peur. On n'a jamais eu peur parce qu'on a eu la chance, je dirais, d'avoir fait le terrain et de vivre des situations où on aurait dû perdre la vie depuis. Je vous dis qu'il y a des situations où on est sorti dedans, on ne sait pas. C'est Dieu lui seul qui sait comment on est sorti dedans. Sinon, on ne serait pas là arrêté ici. Souvent, je m'assois, c'est vrai, je pense à certaines choses. Sur le terrain, je me dis, mais comment Dieu sait ce qu'il fait. Voilà. Donc, si c'est la peur, on ne connaît pas la peur. Ça, jamais. Et on prie Dieu ne jamais connaître la peur. Si on voulait connaître la peur, peut-être que si on avait commencé à s'embourgeoiser, on allait commencer à avoir peur. Mais voilà, ils attendent qu'on ait des comptes chez eux là-bas pour se lever un jour et dire, tu fais ça ou bien on ferme. Ils n'auront jamais nos comptes là-bas. On s'en fout d'avoir des comptes là-bas. Voilà, on n'a pas de bien là-bas, on n'aura jamais de bien. Tout ce qu'on fait, c'est pour le Burkina. C'est le Burkina en paix. Nous, on ne veut même pas quitter notre Burkina. On est en paix ici. L'AIE, c'est un grand espace. Si on veut aller faire du tourisme, on part à Bamako, à Niamey ou je ne sais, dans d'autres villes. On s'en fout d'aller ailleurs. On est bien dans notre espace ici. La peur, on ne connaît pas la peur. Non, on ne connaît pas la peur. On a décidé de s'engager pour la patrie. On sait tous les risques qu'il y a autour. On a abandonné toute notre vie pour ça. Pourquoi avoir peur? On a abandonné toute notre jeunesse là pour une mission pour la patrie. Donc il n'y a aucune peur. Vous pouvez rester sans crainte. Zéro peur. La prochaine phase à laquelle il faut faire très attention, c'est l'intelligence artificielle. Attention, parce que moi, il m'arrive de voir des vidéos de moi-même en train de parler espagnol ou de parler, je ne sais pas, chinois. Je remercie ceux qui le font parce qu'ils arrivent à traduire nos discours. Mais c'est très dangereux. Donc cette phase va venir. Comme je vous disais, les hacking et tout ça, ça va venir. Donc restez concentrés. Faites le travail patriotique que vous faites. Merci à vous. Beaucoup de courage. Et j'espère que votre morale est remontée. N'ayez pas peur. Ils sont là pour vous. Voilà.
Voilà, alors on a entendu, enfin je ne sais pas si on a très très bien entendu, donc cette petite intervention de Ibrahim Traoré qui dit aux gens qui sont là dans la rue, qui discutent avec lui, soyez courageux, de toute façon ils mentent sans arrêt, on est habitué, on n'a pas peur. Ça c'est très important, on n'a pas peur parce qu'on sait que c'est des menteurs, hein. Nous on est décidé à faire notre travail de chef d'État, à donner au Burkina la place qu'il peut avoir dans le pays, à se faire respecter par les autres, et donc on va continuer comme ça, et comme le font les Maliens et les Nigériens de la même façon. Donc ça, c'est déjà un début de réponse à ta question. Déjà, on a là un noyau dur qui est constitué, c'est une alliance maintenant, l'AES, de trois régimes qui sont en train de se sortir des griffes du néocolonialisme à la française pour dire on décide de notre avenir nous-mêmes, on décide avec qui on travaille, on peut avoir un investisseur sur ceci, de tel pays et tout, on discute avec lui de ce qu'il va faire, dans quelles conditions, on est maître de notre jeu et, ce que je rajoute, on n'a pas peur. Alors, c'est des militaires, ils savent ce que c'est, bien entendu, mais la population partage maintenant ce sentiment. Avant, on disait, oh là là, l'ambassadeur de France n'est pas content, ça va mal se passer. Mais l'ambassadeur de France, on le met à la porte un certain temps, et ça se passe différemment. Alors, j'aborde maintenant la question plus générale de qu'est-ce qui se passe pour l'Afrique. Effectivement, le fait de faire le bilan de la présidence Sarkozy, qui, du point de vue du néocolonialisme français, était une présidence catastrophique. Enfin, pas du point de vue anticolonialiste, qui est le mien. Ça a été une présidence absolument catastrophique, la pire qu'on avait vue depuis longtemps. Je résume. Réintégration dans l'OTAN dans sa totalité. Départementalisation de Mayotte. Malgré la position des États-Unis. C'est très très important. Ensuite, opération de Libye, opération en Côte d'Ivoire sur laquelle je me suis arrêté, c'est-à-dire qu'on a eu la pire présidence néocoloniale française depuis longtemps, la pire de notre histoire de la République française. Ça s'est terminé ou ça s'est conclu dans l'idéologie par le discours de Dakar dans lequel Sarkozy va dire « les Africains ne sont pas rentrés dans l'histoire ». Ce qui est une horreur absolue, dire je nie des deux millénaires ou trois millénaires de civilisation, hein, parce que c'est pas la même que la mienne, et ça n'a pas existé. Bon, on n'a jamais fait pire au niveau colonialisme, c'est-à-dire que dire l'autre n'existe pas, il sort de rien, il sort du ruisseau, il n'a pas de culture, il parle comme... Voilà, c'est épouvantable. Alors quand je pense qu'il avait un monsieur à l'Élysée qui était chargé de rédiger ce type de discours et que l'autre les prononçait, hein, j'en suis affolé. Alors ce monsieur s'appelait Henri Guénaud, hein, c'était le porte-plume de Nicolas Sarkozy. Alors il y a dans la République française des néocoloniaux de métier. Monsieur Guénaud, c'est un néocolonial de métier. Son métier, c'est de faire du néocolonialisme et de dire que c'est bien. Bon, donc tout ça revient, tout ça ressort maintenant, c'est très bien. Et puis le fait que Sarkozy soit en prison et qu'il doive y rester, qu'il y reste ou qu'il ne reste pas, peu importe, mais il est reconnu qu'il a quand même était membre et qu'il est encore membre d'une association de malfaiteurs, ça veut dire que les néocolonialismes français, au moins ceux qui sont à la tête du néocolonialisme français, sont des malfaiteurs, sont des voyous. Bon, ça, alors, je veux bien que ça ne plaise pas à M. Sarkozy et à Mme Carla Bruni, ça lui fait de la peine, elle n'a pas son mari à la maison, mais en fait, qui est des journalistes qui disent « Mon Dieu, comme c'est grave et qu'on soit obligé de donner une garde à la magistrate qui a prononcé le jugement association de malfaiteurs », c'est très très inquiétant pour l'état de santé de la République. Hein, on est obligé de protéger une juge qui a lu le code pénal, qui l'a appliqué le code pénal avec tous les arguments qu'il faut, avec deux autres juges, elles étaient trois, hein, et cette personne n'a même pas appliqué la peine maximale qui était de 10 ans, il n'a eu que 5 ans, et cette personne-là est menacée de mort. Ouais. Dans quelle république vivons-nous ? C'est ça la question qui se pose. C'est une république néocoloniale manifeste. Bon. Donc que M. Sarkozy paye un peu, et je pense qu'il y aura d'autres motifs pour qu'il paye. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'à l'exemple d'Ibrahim Traoré et de Goïta au Mali, il y a aujourd'hui un certain nombre d'États africains qui ont décidé de prendre leurs affaires en main, c'est-à-dire d'être gouvernés librement en choisissant les amis qu'ils veulent, les alliés qu'ils veulent, les soutiens qu'ils veulent, en décidant d'acheter du matériel militaire ici ou là, pas forcément des rafales, mais ça peut être aussi des Sukhoi, voilà, des tas de choses comme ça. Liberté de choix. Et qui ont décidé de contrôler leurs affaires, c'est-à-dire on ne livre pas le pays à une personne que nous a désigné l'ambassadeur de France, on voit une société qui veut extraire de l'or, extraire de l'uranium et tout, on discute avec elle des conditions, quelle est la part qui revient au pays, quelle est la part que l'industriel encaisse, etc. On discute entre grands garçons et comme dit Ibrahim Traoré, nous n'avons pas peur. On aborde des gens et ils vont trouver, parce que c'était trop facile, la France-Afrique, la France. L'ambassadeur disait, vous êtes obligé d'implanter Carrefour ou la banque, la Société Générale, et il n'y aura que ça. C'était ça la colonisation française. Vous alliez dans une colonie française et vous aviez, je pense, c'est la même chose en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie, il y a des banques, mais il n'y a que la Générale et la BNP. Ah, il n'y a pas de banque américaine, il n'y a pas de banque allemande, tout. À Mayotte, c'est pareil aussi. Hein. Bon, c'est ça le colonialisme. Ce n'est pas simplement un discours méprisant pour la population, c'est dire c'est moi qui tiens la caisse, c'est tout, et je fais ce que je veux, ouais. Et je n'ai pas de concurrent. C'est ça le bénéfice de la colonisation, c'est l'absence de concurrent. C'est le monopole national. On met un drapeau français, les entreprises françaises ont le monopole de tout. Hein. C'est pour ça que les Palestiniens, à juste titre, disent qu'il faut boycotter Carrefour sur le territoire de la Palestine. Palestine. Bon, c'est la réalité. Donc, ce qu'il y a, c'est que de plus en plus de chefs d'État. D'abord, alors, la grosse évolution, c'est que pratiquement tous les pays d'Afrique aujourd'hui sont juridiquement indépendants. Ça, c'est une première donnée qui n'était pas vraie en 1945. Bon, c'est déjà ça une grosse évolution. Et puis, les décolonisations, ce qu'on a appelé les décolonisations qui sont faites soit par les violences armées, dans le cas de l'Algérie, cas des colonies portugaises un peu plus tard, les autres se sont faites par bricolage néocolonial. Ouais. Qu'est-ce que j'appelle un bricolage néocolonial ? Je vais être très clair. La France, je vais reprendre le cas de la Côte d'Ivoire parce qu'il est exemplaire à mon avis, la France a dit et s'est rendu compte, c'est dans un livre d'ailleurs de Laurent Gbagbo qui traite de la conférence de Brazzaville, c'est bien que nous ayons des colonies, mais il faudrait quand même qu'il y ait des gens sur place qui gèrent un peu les affaires, qu'on ne soit pas obligé chaque fois d'envoyer des savants décider ça pour faire tourner la boutique. Donc il faut avoir des espèces de gérants. Hein, on considère, si vous voulez, je parle le langage du business, la Côte d'Ivoire, c'est une succursale, une succursale française, et à la tête de la succursale, on met un gérant hein, qu'on a choisi pour qu'il fasse le boulot. C'est tout, il est seulement ça. Houphouët-Boigny, ce n'était rien d'autre que ça. Alors, le gérant, ben, il faut l'avoir formé un peu. C'est-à-dire que le jeu consistait, pendant la politique qui a été mise en place, disons, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, à sélectionner une toute petite couche de gens du pays, donc d'Ivoiriens, de Togolais, tout ça. Et cette petite couche-là était destinée à avoir les clés de la succursale au moment où le moment serait venu. Et donc, M. Houphouët-Boigny, en 1960, se retrouve à la tête de la succursale de la République française qui s'appelle République de Côte d'Ivoire. C'est ça l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Il a été sélectionné. Je rappelle que M. Houphouët-Boigny était ministre de la 4e République dans les gouvernements de la 4e République en France. Ouais. Bon, donc il était bien formé, bien cadré. On savait à qui on avait affaire. Pas de souci. Et donc, en 1960, il se retrouve président de la succursale ivoirienne de la République française néocoloniale. C'est tout à fait clair. Bon. Ça a été parfaitement expliqué par Franz Fanon. Et ce phénomène donc, de sélectionner une petite élite qui est chargée de la gestion de la succursale pose problème dès l'instant, et c'est là qu'on en arrive à la génération des Traoré, dès l'instant où il n'y a pas non point 0,5% de la population qui a fait des études à qui on va remettre les clés de la succursale, mais que de plus en plus de gens vont à l'école primaire, secondaire et font des études, on a des milliers de diplômés. C'est le cas au Burkina, c'est le cas au Niger, c'est le cas. Et ces milliers de diplômés, ils veulent, eux, prendre en main vraiment leur pays avec toutes leurs capacités. Et c'est ça, et c'est cette génération-là, qui est la génération post-néocoloniale, qui dit « mais j'en ai assez d'avoir des conseils de Pierre, Paul et Jacques, je ne suis pas une succursale de la République française, point à la ligne, c'est tout. Après, je suis un grand garçon, je fais mon boulot, je me tromperai peut-être, mais je ne suis plus une succursale de la République française. » Alors c'est vrai du côté de l'Afrique anglophone pareillement, c'est vrai du côté de l'Afrique lusophone pareillement. Et on est au cœur de cette année problématique, cette année nouvelle, c'est que de plus en plus d'États et de pays d'Afrique sont sortis de cette phase où il y a encore des Biya 91 ans et des gens comme ça, qui sont des gérants de la succursale et qui vont perdre leur place et qui vont être remplacés par des gens de la jeune génération. Alors ça prendra le temps que ça faudra, ça ne se fera pas sans difficulté, mais de toute façon, la page est en train de se tourner sous nos yeux et c'est ça qui est important. Et j'allais vous dire que Radio Galère va mettre son tout petit grain de sel dans cette mécanique infernale pour le grand capital. J'explique. Le vendredi et le samedi qui viennent, Radio Galère organise avec quelques autres, donc Omaguerre, deux journées de commémoration du 100e anniversaire de la naissance de Franz Fanon. Ça aura lieu sous deux formes. Le vendredi soir, il y aura un film sur le rôle de Franz Fanon dans la libération et l'indépendance de l'Algérie. Et le samedi après-midi, à la Friche ici, président, dans une salle, il y aura une soirée, un après-midi plutôt, pour commémorer Franz Fanon, sa naissance et son œuvre. Donc on sera tout à fait dans ce sujet-là. Puis il faut savoir que Frantz Fanon, donc vous savez, martiniquais d'origine, francophone, a été le porte-parole du gouvernement provisoire de la République algérienne exilé à Tunis et a été l'auteur d'un certain nombre de textes qui ont très clairement défini le colonialisme français et qui ont apporté une pierre très importante à l'édifice de la décolonisation en disant « la colonisation a aussi des effets mentaux ». La colonisation fait des effets mentaux de masse, c'est-à-dire que d'une part elle transforme la vision du monde par le colonisateur. C'est le discours de Sarkozy à Dakar. Les Africains ne sont pas rentrés dans l'histoire. Mais aussi, elle transforme le cerveau du colonisé. Les deux. Et il dit, c'est un cas, il est psychiatre, Fanon, il faut le rappeler, c'est un cas d'aliénation. C'est-à-dire, on ne pense pas la réalité. On pense faux. L'Africain pense français. Hein, et donc, il a perdu une partie de sa nature. C'est ça qui est en cause et c'est pour ça qu'on parlera de Frantz Fanon samedi dans 15 jours à la Friche. On en reparlera à l'antenne. Hein, mais c'est très, très important de situer ça comme mouvement général sur la décolonisation des esprits. On s'écoute.
Oui, j'ai une question, Bernard, à propos de ce qui se passe en Afrique avec tous les... Enfin, Alpha Blondie, les artistes, Alpha Blondie a toujours appelé à ce qu'il y ait de la paix en Côte d'Ivoire et il n'en a pas été, on n'a pas respecté la loi, quoi. Enfin, il y a eu l'exclusion des tonneaux, machin. Enfin, comment tenir un autre langage pour ces artistes-là, pour les gens qui sont au sommet, qui ont gagné des trophées, comme Ousmane Dembélé, le ballon d'or africain, là, le ballon d'or qui vient de l'Afrique. Est-ce qu'elle peut tenir un autre langage pour être des médiateurs de la paix là-bas en Afrique avec tout ce qui se passe? On sait qu'il y a des innocents qui sont égorgés par des milices, par des innocents hein, dans des villages, machin, que ce soit au Cameroun, partout. Enfin, c'est ma question, Bernard.
Alors, question, voilà, c'est encore tout un autre débat. L'insertion des médias grand public, en particulier des chanteurs, des groupes de rap, etc., fait que interviennent dans le débat politique des gens qui n'ont pas forcément de formation politique, qui vont tenir le discours de la mode, de ce qui se vend bien à un moment donné, mais dont on ne peut pas attendre, j'attends pas d'Alpha Biondi, qu'il ait un programme politique et une vision claire de la situation. Donc, on va lui faire faire des disques qui vont se vendre bien parce que c'est le rythme à la mode, c'est le mot qu'il faut dire, des et tout. Et en fait, je ne lui donne aucun droit de définir une position politique parce que c'est une élaboration entre lui et ses copains. Ça n'a pas d'enracinement profond. Il vend des disques, il dit ce qu'il faut dire à un moment donné parce que ça se vend bien. Il dira le contraire. Sa position par rapport au Gbagbo a été très très ambiguë, voire hostile, tu vois. Et donc, moi, j'attends rien de particulier. Simplement, il faut que nous soyons conscients qu'on peut très bien avoir un grand plaisir à écouter des chansons d'Alpha Biondi. Mais quand je vois qu'il y a un meeting sur le Biondi, qui considère que c'est un courant intellectuel, là je ricane hein, parce que c'est pas un courant intellectuel, c'est un courant d'un monsieur qui a vendu beaucoup de disques, qui va en continuer à vendre ça et qui dit ce qui est dans l'air du temps pour faire plaisir, mais c'est tout. Je veux dire, donc bon, vive les biondistes, mais leur poids politique est nul et leur influence est néfaste. Ça, je suis très très clair là-dessus. Ça ne correspond pas à un travail d'élaboration de base. C'est-à-dire que la dame qui va gratter son champ avec son arrière à l'ancienne et tout pour nourrir ses petits, elle s'en fout de ce que chante Alpha Biondi. D'abord, Alpha Biondi, il chante pour nous, pour les Européens et pour les Africains qui vivent ici. Il ne chante pas pour la dame du Burkina Faso qui, dans le fin fond de son village, est en train de gratter la terre avec Saou. Donc, bon, personnage négligeable. Je suis très sévère, mais je dis personnage négligeable de mon point de vue politique. Hein. Après tout, il fait de jolies chansons, mais il n'est pas le seul, il y en a eu d'autres. Hein. Simplement, je vais regarder ses cours, on me dit « Ah, super chanson de machin !» Bon, il fait une super chanson, mais ça s'arrête là, ça ne change rien. Et assez souvent, ces gens-là sont bien pris en main par le pouvoir politique en place. Hein. On les invite à des réceptions, etc. On parle d'eux et on leur fait gonfler la tête au-delà de ce qu'elles méritent. C'est ça que je dis. Hein. C'est-à-dire on leur donne un rôle d'orientation de l'opinion qui est usurpé. Est-ce que je réponds à ta question?
Oui, mais j'ajoute, comme Ousmane Dembélé, le ballon d'or africain, ouais, vient de gagner le ballon d'or. Et est-ce qu'avec Ousmane Dembélé, on sait qu'il est d'origine mauritanienne, ou, enfin, il est africain, il peut jouer le rôle de médiateur dans des conflits en Afrique avec tout ce qui se passe bon, des gens massacrés là, innocemment, là, enfin, des enfants dans des milices, quel que soit au Cameroun, quel que soit au Nigeria ou au machin, est-ce que ces gens-là peuvent incarner le rôle de médiateur, quoi, au moins dans ces conflits-là, parce que vraiment, ça fait mal de voir tout le temps ou d'entendre que des enfants égorgés innocemment. Oui, là,
mais à qui on va donner la parole à lui et on ne va pas donner la parole au capitaine d'une autre équipe qui dira des choses beaucoup plus intéressantes. Donc, en fait, on utilise une célébrité qu'ils ont acquise sur un autre terrain. Un excellent footballeur, c'est un excellent footballeur. Ce n'est pas forcément une grande tête politique, c'est tout. Et on tient le fait, il est connu, donc il a dit ceci, il a dit cela. Mais je remarque, le foot, c'est pas toujours. Il faut savoir qu'il a fallu attendre le mois dernier pour qu'il y ait une banderole palestinienne dans les tribunes du stade Vélodrome, hein, alors qu'il y en avait dans l'Europe entière. Hein. Donc le foot, c'est pas forcément la politique juste.
C'est facile de commencer une guerre, mais c'est difficile de la terminer ou de négocier à ce qu'elle se termine. Hein. C'est facile de commencer une guerre,
Mais c'est pas un footballeur qui va l'arrêter. Aussi bien il dira je suis content parce qu'on va vers un accord de paix, mais c'est tout. Sa parole vaut pas plus que ça. Sa parole, elle vaut pas les milliards du fait du prix où il est échangé sur le mercato. C'est ça que je veux dire. Elle vaut la parole de n'importe qui.
Oui, mais comment c'est que c'est, au moins c'est quelque chose, c'est un exemple à dire que voilà, au moins il a commencé, au moins il a tenté.
Mais il n'a rien tenté. Il a surfé sur une vague, mais il y est pour rien. La vague, c'est la révolte de la population. C'est la population qui ne veut plus de ça. Alors, à ce moment-là, c'est facile de dire la population ne veut plus, ben, je mets mon grain de sel, on parle de moi. Bon, bien sûr, mais c'est pas une façon de faire de la politique. Non, c'est une façon dont on voudrait qu'on nous fasse faire de la politique aujourd'hui comme ça. C'est effectivement contre ça qu'il faut lutter. La politique, ça ne consiste pas à faire parler des vedettes sur les écrans sur n'importe quel sujet.
Tout est politique, Bernard, tout est politique. Hein.
Tout peut être utilisé par les politiques. C'est ça, c'est vrai.
On ne peut pas échapper à nous. Tout est politique, Bernard.
Oui, non, mais ça, c'est vite dit, mais c'est trop simple. Après, c'est quoi la politique? Ça consiste à faire des décisions collectives pour l'intérêt de la majorité du peuple. Je reviens à la position du Parti communiste chinois. Ça, c'est pas simplement pour être élu président de ceci ou être nommé ministre de ceci-là. Ça, faire la politique, c'est faire la politique pour le pays dont vous êtes à la tête, dont vous êtes responsable, pour le bien collectif de tout le monde. Ouais. C'est ça, la politique. C'est pas un discours des faits avec « je suis brillant, j'ai dit des bonnes choses » et tout. Non, c'est beaucoup plus profond que ça. Hein. Non, j'ai un peu répondu, mais quoi, en improvisant. Alors, je vais finir. On a encore, deux, trois minutes. Par vous parler de qu'est-ce qui arrive quand on se met en travers du chemin de l'impérialisme. Alors, je fais référence, vous savez qu'il y a quelques semaines, le président de la Colombie, M. Gustavo Petro, a fait un discours très très remarqué à la tribune des Nations Unies pour expliquer que ce que c'était que la domination du continent latino-américain par les États-Unis d'Amérique, ce que c'était que le trafic de la drogue et en particulier l'usage abusif qui en est fait par les citoyens des États-Unis, pas tous bien entendu, mais quand même que le premier marché mondial de consommation de drogue, c'est le marché des États-Unis. Et donc, vous savez qu'après avoir fait ce discours à la tribune de l'ONU, qui a été remarqué, il est descendu dans les rues à New York, invité par les communautés latino, comme on dit là-bas, et il a dit aux gens, mais défendez-vous, défendez votre langue et tout, ça suffit, la façon dont Trump présente les situations, etc. Bon. Et il a même dit, j'invite les soldats des États-Unis qu'on enverrait pour tuer des latino-américains à lever le fusil en l'air. Donc, un appel à la désobéissance militaire. Alors vous imaginez que ça n'a pas beaucoup plu, ça n'a pas beaucoup plu ni à la Maison Blanche, ni au Pentagone. Et donc M. Petro est en train d'avoir des gros ennuis. Parce que ça se paye, on a insulté le patron à la tribune des Nations Unies, on s'est moqué de lui dans la rue à New York en disant « bon, il n'est pas sérieux », et on a invité les soldats des États-Unis à ne pas tirer contre les latino-américains, donc à désobéir. concrètement à leur commandement, et donc ça se paye. Alors c'est en train de se payer sous quelle forme ? Première forme, l'armée américaine se met à tirer sur des bateaux de pêche colombiens qui sont en train de faire leur travail journalier, c'est-à-dire il y a un bateau de pêche, l'armée américaine tire un missile dessus, on tue le pêcheur, son fils et son petit-fils, et on dit c'est des narcotrafiquants. Ah ben peut-être bien, seulement il se trouve que dans les 48 heures, la présidence colombienne, il s'agit de M. Machin de tel village, son nom, son adresse, etc., ça, qui il est, donc tout le monde peut le reconnaître, son village sait qu'il n'est pas revenu de sa pêche, bon, donc mensonge. Mais là encore, on tombe sur la question des démentis dont je vous parlais en début d'émission. C'est-à-dire que l'état-major des États-Unis affirme qu'il a coulé et tué des trafiquants de drogue. Vous pouvez faire un démenti en espagnol depuis la présidence de la Colombie. Ça sera lu que par qui a envie de le lire. C'est tout. Ça s'arrête là. Bon. Donc, ça, premier ennui, première manifestation, on tue des Colombiens, comme ça, ça vous apprendra. Qui n'y sont pour rien, évidemment, dans l'opération. Deuxième attaque, M. Trump présente M. Petro lui-même comme un trafiquant de drogue. Ah! Ah, alors, il faut savoir, c'est ce que dit la présidence colombienne, puisqu'elle répond à tout ça, elle dit qu'elle a réussi non pas à éliminer la culture de la coca, parce que c'est très difficile d'éliminer la culture de la coca en Colombie, dans la mesure où ça se passe principalement dans des zones de jungle, et que c'est très difficile d'aller s'en prendre aux planteurs de coca, parce qu'ils sont armés, qu'ils sont très dangereux. Bon, alors ce que dit Petro, il ne cache pas les choses, il dit « j'ai réussi à stabiliser les surfaces » dédié à la cocaïne, à la coca sur le sol colombien. Il ne dit pas j'ai éliminé, il ne raconte pas d'histoire. Il dit on a fait un effort, on arrive à éviter que ça prolifère, que ça prenne encore plus de place qu'avant. On ne peut pas faire plus. Pourquoi ? Ben c'est dans des zones dans lesquelles nous ne faisons pas la loi. Et il le dit, je suis au gouvernement, mais je ne fais pas la loi sur la totalité de mon territoire. Ce qu'il n'a pas dit, mais ce que je redis, c'est que les agents de la DEA, donc l'administration des États-Unis qui s'occupe du trafic, sont eux sur place et qui savent très très bien où ça se produit et par où ça part. Et puis, comme un malheur, j'ai dit non, je ne veux pas malheur à M. Petro, n'arrive jamais seul, M. Petro est en train d'avoir des ennuis électoraux. Ah ! Comment ça se fait ? Eh bien, comment ça se fait ? Il faut savoir qu'il y a des élections législatives l'année prochaine, en 2026. Et il y avait en projet la création d'un pacte laïque de gauche, à la tête duquel aurait été le parti de M. Petro. Alors, M. Petro, quelques mots, il est arrivé à la présidence de la République dans des conditions assez particulières. Il est arrivé un peu sur la base, il y en a assez de la Colombie corrompue, il y en a assez de la Colombie narcotrafiquant, et il faut que le peuple puisse parler. Et il a été élu sur cette base alors qu'il n'avait pas d'assise électorale. C'est-à-dire, il a été reconnu comme une personne méritant pour l'avenir de la Colombie, mais il n'avait pas de structure de pouvoir derrière lui. Il avait été maire de Bogota, mais ça ne suffisait pas. Donc le voilà. Et il était en train de monter avec toute une série de partis, disons, de gauche, dont le Parti communiste, d'autres partis autonomistes et tout, une structure pour présenter des candidatures communes aux législatives de 2026. Et qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, comme par hasard, une cour de justice colombienne a interdit cette structure. C'est-à-dire qu'on est en train de lui torpiller sa campagne électorale de l'année prochaine. Pourquoi ? Parce qu'il y a en Colombie, ceux qui ont été battus par M. Petro en 2002, ils ne sont pas partis. Ils sont même tellement plus partis que le pire d'entre eux, M. Uribe, qui était un tueur, l'ami des narcotrafiquants, un voyou, etc. M. Uribe vient d'être amnistié par un tribunal, ce qui veut dire que dans la justice colombienne, il y a des défenseurs de l'extrême droite, il y a des défenseurs des paramilitaires, il y a des défenseurs des assassins, il y a donc M. Petro a fort à faire, et je pense qu'il est intelligent, et puis il connaît la musique. Quand il a fait son discours à l'ONU, il savait qu'il avait déclaré la guerre à ce clan-là. Et donc, le clan est en train de réagir pour éviter que ça se reproduise. Voilà, c'est à nous, c'est l'heure. Bon, on doit finir. Merci à Swann, merci à Jules. On laisse la place aux invités. À bientôt la semaine prochaine.